Dieu nous promet une vie merveilleuse en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la vérité. Jésus dit en Jean 10:10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Ça, c'est la promesse de Jésus. Jésus veut nous donner une vie marquée par la paix, la joie, la force, le courage, l'amour. Mais cette vie n'est pas reçue aussi sans effort de notre part. Nous devons prendre possession de cette vie que Dieu nous donne. Alors la question qui se pose est comment prenons-nous en possession de cette vie promise en Jésus-Christ? Nous pouvons trouver, je pense, la réponse, ou une réponse au moins, réponse à cette question dans le livre de Josué. Aujourd'hui, je commence une série de messages bibliques sur le livre de Josué. Et ce livre se trouve dans l'Ancien Testament, bien sûr, et il nous raconte l'histoire de la conquête de Canaan. Canaan est la terre promise que Dieu a voulait donner à son peuple depuis le temps d'Abraham. Nous voyons la promesse pour la première fois en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Je le lis. Et ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, « Quitte ton pays, Abraham, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » La promesse commence là, dans le livre de Genèse, dans le deuxième chapitre. La Bible décrit la terre promise comme un bon et vaste pays, un pays où coule le lait, le miel. C'est-à-dire, ce pays, ou cette terre, elle serait un endroit où le peuple de Dieu pourrait vivre dans la sécurité et la prospérité aussi longtemps qu'ils observaient l'alliance entre Dieu, eux et Dieu. Et selon chapitre 4, dans le Nouveau Testament, chapitre 4 du livre d'Hébreux, la terre promise symbolise une vie de bénédiction et de repos. C'est la vie que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. En tant que telle, elle nous donne une image de cette vie que Dieu nous promet. Donc, mon but dans cette série de messages est d'apprendre de Josué et le peuple d'Israël, apprendre de leur exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'emparer de la terre promise? Quels sont des principes que nous pouvons tirer de leur exemple pour nous aider à prendre en possession de cette vie promise en Jésus-Christ? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous savons, nous croyons que tu es vivante et ça veut dire que tu es présent ici ce matin. C'est vrai que j'ai préparé les choses, j'ai écrit les choses, j'ai fait les études, mais nous comptons sur toi, Dieu, par ton esprit pour nous parler. Il y a certaines choses qui vont nous toucher et pas d'autres, mais c'est ton esprit qui est à l'œuvre. Alors parle à nous. Et donne-nous les oreilles pour t'écouter et le courage, la foi de mettre en pratique ce que tu nous dis. Je prie, Seigneur, que tu prennes ce message et que tu sois glorifié et que ton peuple soit édifié. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen. Pour commencer cette série de messages, j'ai pensé de vous donner juste une introduction au livre de Josué. Donc, d'abord, il faut comprendre le livre, ce qui se passe dans le livre de Josué, dans son contexte historique, sa place dans l'histoire de la Bible. Bien sûr, tout commence par Adam, en Genèse, n'est-ce pas? Et après Adam, il y a la période des patriarches nombreuses. Mais on arrive à Abraham. Et c'est Abraham qui a reçu le premier, cette promesse de la terre promise. ce pays qui coule de lait, de miel, et cet endroit. Donc c'était donné à Abraham. Mais il n'a pas vraiment, lui, vécu cette promesse dans sa vie. Et nous voyons encore d'autres patriarches après. Mais un moment arrive qu'Israël, après Joseph, ils étaient en esclavage en Égypte, le peuple d'Israël, pendant 400 ans. Imaginez, 400 ans. Vous avez la promesse et vous dites que, bon, juste pour nous, 5 ans, si on ne voit pas la promesse ou les choses que nous cherchons de Dieu, après 5 ans, nous sommes découragés. Mais pendant 400 ans, ils n'ont pas vu cette promesse, réalisé cette promesse dans leur vie. Mais à certains moments, la Bible dit en Exode que il a entendu, et bon, il a entendu jusque pendant toutes ces années, mais c'est le moment qu'il a décidé, c'est le moment qui est bon pour faire quelque chose. Et donc, il a appelé Moïse, le grand leader du peuple juif. Il a appelé Moïse pour faire sortir, pour faire l'exode de l'esclavage. Et nous lisons tout cela dans le livre d'Exode, dans les chapitres 12 et dans cet endroit, dans le livre d'Exode. Donc le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge pour être libérés de Pharaon et tous les ennemis d'Égypte, l'esclavage qu'ils avaient là. Et c'était là, après après avoir traversé la mer Rouge, qu'ils ont passé un an au pied de Mont Sinaï. Et c'est là que Moïse a commencé d'enseigner le peuple. Imaginez, ils avaient 400 ans, ils n'étaient pas bien instruits dans la connaissance de Yahweh, le Dieu d'Israël, et c'était faible. Donc Moïse a commencé d'enseigner le peuple. C'est là qu'ils ont reçu la loi. Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir la loi qu'il a partagée avec le peuple. Et il a commencé de rédiger. C'est Moïse qui est l'auteur des premiers 5 livres de la Bible. Et ces 5 livres, c'est les enseignements qu'il a donnés à son peuple. Donc ils ont passé un an au pied de mont Sinaï. Et c'est là aussi qu'ils ont construit le tabernacle. Donc les deux choses, la loi et le tabernacle, pour vivre en relation avec Dieu. Ils ont commencé leur voyage vers la terre promise. À un certain moment, ils ont décidé d'envoyer les espions dans la terre promise pour explorer, pour découvrir ce qui était là. Donc il y avait 12 espions qui étaient envoyés. Et parmi ces 12 espions, Josué, l'auteur du livre que nous allons regarder dans les semaines prochaines, Josué était parmi ces 12 personnes. Ils ont exploré, ils ont trouvé effectivement, c'est un beau pays. C'est vraiment un pays qui coule de lait et miel. C'est comme ça qu'on l'a dit? Oui, d'accord. Et donc, c'était magnifique. Mais 10 des 12 espions ont dit, ah, attendez, c'est beau, ça c'est vrai, mais il y a les géants dans les terres. Il y a les ennemis féroces, il y a les villes fortifiées. Ce n'est pas possible pour nous de prendre en possession de cette terre promise. Mais il y avait deux hommes parmi les 12 qui ont dit, non, si Dieu est avec nous, nous pouvons nous emparer de cette terre. Et donc, c'était Josué et Caleb. En ce moment, Dieu a dit, bon, pour tout, et tout Israël, ils ont pris le parti des 10. Ils ont dit, non, nous ne voulons pas. Donc, ils ont rebellé contre Dieu, ils ont revolté contre Dieu, et Dieu a dit que, bon, toute personne de, j'oublie l'âge, c'était quel âge? De 20 ans, je pense. Toute personne de 20 ans ne peut pas entrer dans la terre promise. Donc, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Un trajet normalement qui prend 40 jours est détourné en 40 ans à cause de leur manque de foi, à cause de leur désobéissance. Et quand la dernière personne, sauf que Caleb et Josué, est mort dans le désert, ils ont continué pour ils étaient, nous sommes ils arrivaient à le je suis là oh, j'ai oublié de mettre. Bon, j'avais une autre ligne que j'ai. Bon, ils sont arrivés à la frontière de Canaan. Et c'est là que Moïse est mort et Josué était nommé comme le chef d'Israël. Et donc, il a pris la succession et c'était lui qui a été désigné maintenant pour diriger la conquête de Canaan. Et ça, où nous sommes maintenant, nous sommes à la frontière de Canaan pour cette conquête que nous regardons. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Les dates des événements du livre de Josué, c'était environ 1400 ans, 1406 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Il y a les débats des dates précises, mais moi je trouve que ça c'est correct. Et ce qui, dans mon étude, ce que je n'ai pas retenu avant, c'était vraiment les événements de la conquête n'étaient pas longs. Ça prend une période de 10 ans de cette conquête. Et donc, c'était 40 ans après, plus ou moins après l'Exode. Donc, le personnage principal, donc, dans la date, oh, oui, ce que Thierry a dit tout à l'heure qui m'a touché. Nous avons ce livre que nous lisons, mais c'est un document ancien. Ça date 3000, 3500 ans. C'est une culture. Donc, parfois, quand nous avons des difficultés à comprendre, il faut comprendre que c'est une culture complètement différente de notre culture. C'est une langue différente que notre langue. C'est un peuple, une population différente que ce que nous avons. C'était un quotidien différent que la nôtre. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de l'hôpital, il n'y avait pas encore les découvertes de la science. C'est complètement différent. Pourtant, les principes qui se trouvent dans ce livre s'applique toujours à notre époque. Ça, c'est magnifique. Telle est la beauté de la parole de Dieu. C'est un livre pour tout homme en tout temps. Et nous pouvons trouver l'aide dans ce livre pour nous. Pour le personnage principal, c'est Josué. Josué, le livre est nommé après lui. On pense qu'il a écrit la plupart des livres. Il y a d'autres choses, peut-être qu'il a été ajouté après par d'autres personnes qui le connaissent, mais en gros, c'était rédigé par Josué. Le nom Josué veut dire Yahweh est salut. En fait, à certains moments, son nom était changé, c'était Osée, je pense en français on le prononce comme ça, qui veut dire tout simplement le salut. Et Moïse a changé son nom à Josué, qui veut dire Yahweh et salut. Et c'est le même nom, c'est le nom en hébreu dans l'Ancien Testament qui est le même nom pour Jésus dans le Nouveau Testament. Josué est né en Égypte, dans l'esclavage. Et il a participé, il était là pour traverser la mer Rouge. Il était le compagnon et collaborateur personnel de Moïse. Il était son assistant, on peut dire son disciple. Il était présent quand Dieu a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Il était gardien de la tente d'assignation quand Moïse a rencontré Dieu. Vous, peut-être vous savez. Remember. Vous vous souvenez? Quand Moïse était dans la tente, dans le tabernacle, il a prié Dieu. Il y avait un nuage qui a couvert le tabernacle. Et quand il est sorti, son visage était plein de gloire de Dieu. Et Josué était là pour tout cela. Il était avec Moïse, il a vécu les hauts et les bas avec Moïse dans la direction du peuple d'Israël, depuis Égypte jusqu'à la frontière de la terre promise. Il a vu toutes ces choses, ces difficultés. Il a vu les rébellions, les révoltes, Il a vécu tout cela. Josué était chef militaire. C'est lui qui était à la tête des forces militaires pour repousser l'attaque des Amalécites. C'est le moment que Moïse était sur la montagne pour prier, mais c'était Josué qui était à la tête de des troupes d'Israël pour les armées pour faire cette attaque. Comme je disais tout à l'heure, Josué était parmi les 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. Et lui et Caleb étaient les seuls parmi les 12 espions en faveur de la conquête de Canaan. Josué était nommé chef d'Israël après la mort de Moïse et Dieu lui a confié, c'était l'appel de Dieu, confié cette responsabilité, cette mission de diriger Israël dans la conquête de la terre promise. Je peux dire, pour Josué, il était un homme exemplaire. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Il était fidèle dans tout ce qu'il a fait. Donc, il est un exemple pour nous, quelqu'un qui a marché avec Dieu. Oui, bien sûr, la culture était différente, la langue était différente, toutes ces choses, mais il y a certaines choses qui ne changent pas, n'est-ce pas? Nous sommes tous humains. Nous avons tous les mêmes émotions et tout. Et Dieu n'a jamais changé. Il est le même. Il était le même il y a 3500 ans qu'il est aujourd'hui. Et nous pouvons apprendre de Josué. Juste une carte pour vous. Ils étaient, je ne peux pas voir bien. Ça, ça ne voit pas bien, mais ils étaient à peu près ici quand ils sont arrivés d'errer dans le désert et là-bas était Égypte. Mais ils sont là quand ils sont entrés au milieu. Je pense que c'était d'abord dans son militaire pour prendre en possession de la terre promise. Ils ont commencé ici, ils ont terminé là. Ils avaient de ce côté du Jourdain leur camp, leur base militaire, quoi, qui était là. Et c'est juste quelque part ici qui était Jéricho, le premier lieu d'attaque. Le plan du livre est comme ça. Il se divise en trois parties, ou quatre parties. La première partie jusqu'au chapitre 5, c'est la préparation pour la conquête. Chapitre 6 à 12, c'est la conquête de la terre promise. Chapitre 13 à 21, c'est le partage de la terre. Et à la fin, 22 à 24, c'est les adieux. Nous allons regarder dans ce livre des principes différents. Le verset clé, je trouve, d'après mes études, le verset clé du livre se trouve au chapitre 1, verset 11, qui dit « Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession, vous donne la possession. » Ce verset nous donne une fenêtre pour voir et comprendre l'ensemble du livre de Josué. Mais ne manquez pas le rôle ici dans ce verset. Ne manquez pas le rôle de Dieu et le rôle d'homme dans la conquête. Notez chaque verbe qui est là. Notez le sujet des verbes et l'action. D'abord, le premier, parcourez le camp. C'est Dieu qui parle à Josué. Donc, c'est adressé. C'est qui doit parcourir le camp? C'est Josué. Et pour faire quoi? Et voici ce que vous ordonnez au peuple. Donc, il avait cette responsabilité de parcourir et ordonner, enseigner le peuple de ce qu'il doit faire. Donc, maintenant, Josué le dit, préparez-vous. C'est maintenant le sujet, c'est le peuple d'Israël. Ils doivent faire quelque chose. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, quoi, vous passerez le Jourdain. Action, c'est Israël. Le sujet, c'est Israël. Action, passé. Et pour faire quoi? Aller encore. Ça, c'est trois verbes. Préparez-vous, passez, allez. Et c'est Israël qui doit le faire. Donc, passez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quelque chose que Dieu donne. Cette terre promise est quelque chose que Dieu donne, mais en même temps, il y a la partie humaine. Ils doivent prendre possession de cette terre, de cette promesse. Il y a les deux choses qui sont à l'œuvre. C'est Dieu qui donne la terre promise, mais c'est Israël qui doit prendre en possession. Chacun a sa part. Israël ne pouvait pas rester sur le côté du Jourdain, regarder de loin et dire, waouh, c'est vraiment beau ce pays. Ah, c'est magnifique. Non, si Israël n'avait pas traversé le Jourdain, il n'aurait pas possédé la terre promise. Il devait traverser, il devait faire quelque chose. Il n'aurait pas profité de ce que Dieu leur avait promis. Il ne pouvait pas rester de l'autre côté. Il devait traverser pour le faire. Ça, c'est ce qu'il devait faire. Mais en même temps, si Dieu ne les a pas aidés, ils n'auraient pas pu posséder la terre promise. Ils devaient avoir l'aide de Dieu. Parce qu'effectivement, il y avait les villes fortifiées, il y avait les géants, il y avait un peuple féroce. Ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes, ce peuple. Donc nous voyons les deux. Regardez ces deux images. Quelle est la différence entre les deux voiliers? Comment?
C'est pas les mêmes.
Oui, c'est pas... Bon, mais bon, j'ai essayé de trouver deux qui étaient le même. Mais ce n'est pas. Mais quelle est la différence entre les deux voiliers? Oui. Hein? Ici? Il a mis les voiles, n'est-ce pas? Et celui-là n'a pas mis la voile. Un voilier se dirige vers sa destination car il a mis sa voile. L'autre n'a pas mis sa voile, donc il ne profite pas du vent, n'est-ce pas? Il ne bouge pas. Ce que je voulais dire. Dans la vie spirituelle, la responsabilité de Dieu est le vent. Et notre responsabilité est la voile. Si nous ne mettons pas la voile, nous ne pouvons pas profiter du vent. Dans cette illustration, le vent est tout ce que Dieu fait pour nous, pour obtenir la vie promise en Jésus-Christ. Et il nous offre sa grâce, son amour, sa puissance par le Saint-Esprit, sa direction, sa correction, sa bonté, sa sagesse. La voile est tout ce que nous faisons pour recevoir ce qu'il a fait pour nous, ou ce qu'il fait pour nous. Notre tâche dans cette étude de Josué sera de voir comment les Israélites et Dieu ont collaboré ensemble pour s'emparer de la terre promise. Et nous allons découvrir comment Israël a levé la voile pour attraper le vent de Dieu. Cette vérité de la duale, est-ce que je peux dire duale, responsabilité, est trouvée partout dans les Écritures. Remarquons deux passages dans le Nouveau Testament qui parlent du rôle de Dieu et du rôle d'homme pour s'emparer de la vie promise en Jésus-Christ. Est-ce que je peux demander quelqu'un pour lire Hébreux 4, 8 à 11, en fait 10 à 11?
En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance.
Comme dans le verset 11 que nous avons en Josué chapitre 1, regarde ici. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de son activité. Certes, il faut se reposer en Dieu. Et Dieu s'est reposé de la sienne. Mais notez le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Empressons-nous. Empressons-nous donc. L'activité de Dieu est l'activité de l'homme. Notre foi n'est pas une foi passive. Elle est une foi active. Il y a une partie de Dieu et une partie de nous. Maintenant, si quelqu'un peut lire Philippiens chapitre 12, chapitre 2, versets 12 et 13.
Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant.
Okay. Regardez ici. Qu'est-ce qu'il dit? Mettez en œuvre votre salut. Ça, c'est une exhortation, c'est quelque chose que nous devons faire. Mais au verset 13, nous voyons en effet, c'est Dieu qui produit en nous. Il est le vent qui est attrapé. Nous devons mettre la voile, mais il est le vent qui produit en vous le vouloir et même le faire pour son projet bienveillant. C'est un principe qui est vrai dans toute la vie spirituelle. Pensez à notre salut en Jésus-Christ. Avant d'accepter Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés. Complètement morts. Si quelqu'un est mort, il est mort. Je ne peux pas dire que... c'est moi qui est là, mort, je ne peux pas dire, ah bon, mais je suis fatigué d'être mort, mais maintenant je vais revenir à la vie. On ne peut pas. Quand on est mort, on est mort. Et la Bible dit que nous sommes morts dans nos... Il n'y a rien qu'on peut faire pour se sauver de la situation. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Dieu seul. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas rien que je peux faire pour être sauvé. Pourtant, l'homme a la responsabilité de se repentir. Ça veut dire tourner de ses péchés, de changer la direction de sa vie et recevoir par la foi la grâce, le don de salut que Dieu nous donne. Donc, vous voyez, tout dépend de Dieu. Mais aussi, nous devons recevoir ce qu'il veut faire pour nous. Nous devons compter sur la grâce de Dieu en tout moment. Grâce peut être définie comme Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans le salut? Je ne peux pas revenir à la vie. Il a fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Mais la grâce n'est pas opposée à l'effort non plus. Nous allons voir dans notre étude de Josué que les deux conditions fondamentales pour prendre possession de la vie promise sont la foi et l'obéissance. C'est un peu cette voile que nous devons élever. Josué et les Israélites devaient mettre leur confiance en Dieu et obéir à Dieu s'ils veulent s'emparer de la pays promis. Si nous remplissons ces deux conditions, Dieu s'occupera du reste. Il fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Tout dépend de lui. C'est lui qui donne la force pour surmonter les tentations. Car il est tout puissant. C'est lui qui donne l'espérance face aux déceptions de ce monde. Car il tient le futur dans ses mains. Il nous tient aussi dans ses mains. C'est lui qui va porter quand nous sommes au bout de nos forces. C'est lui qui nous comprend comme personne d'autre ne nous comprend. Il est des chrétiens, je trouve, qui veulent la vie de paix et de joie que Dieu promet en Jésus-Christ. Et il devient frustré. Mais où est cette paix que j'ai vue dans la Bible? Où est cette joie? Mais ils ne veulent pas mener la sorte de vie qui leur donne cette paix. Ils ne veulent pas élever la voile pour recevoir ce que Dieu veut faire dans leur vie. Et ce qui est dérangeant, souvent ces personnes blâment Dieu pour leur situation. Il y a peut-être ces 2 ans maintenant, j'ai prêché une série de messages sur le triangle de transformation. Et en fait, si nous voulons prendre possession, en possession de cette vie que Dieu nous donne, nous promet en Jésus-Christ. Il y a certaines choses, nous devons assimiler la pensée de Jésus. Nous devons penser comme Jésus. Nous sommes éduqués dans la philosophie de ce monde, dans la pensée de ce monde. Nous devons échanger ces mensonges pour la vérité. Ça, c'est ce que Romains chapitre 12 parle de renouveler votre intelligence. Donc, il faut assimiler la pensée de Jésus-Christ. Mais aussi, il faut s'entraîner selon la pratique de Jésus. Fais ce que Jésus a fait. Quand nous voyons qu'il prie, bon, si c'était important pour Jésus, ça veut dire que c'est important pour nous. Et ici, on parle des disciplines spirituelles, les pratiques de la foi différentes. Donc, il faut s'entraîner selon la pratique de Jésus. Mais aussi, il faut faire ensemble avec la communauté de Jésus. Toutes les deux semaines, je parle avec un pasteur aux États-Unis. Il est plus âgé, il est 75 ans, il est un homme de Dieu. Mais j'ai besoin de lui pour parler, pour prier ensemble. Il prend du temps avec moi parce que nous parlons comment et j'explique, oh, mais cette semaine j'ai fait cette bêtise, ou cette semaine j'étais vraiment découragé. Et nous parlons ensemble. Alors, quelle est la pensée de Jésus? Quelles sont les pratiques? Qu'est-ce que tu peux faire pour. Et je fais ensemble avec lui. Et nous le faisons ensemble aussi dans notre communauté. Nous avons besoin de la communauté de Jésus pour le faire. Donc, en quelque sorte, ces trois principes sont comme la voile de voilier. Vous voyez? Mais si c'est sage seulement, c'est l'effort humain, on se décourage. On travaille. Mais il ne faut jamais oublier le vent qui est au centre, ce qui est le Saint-Esprit. Quand nous mettons la voile, le vent de Dieu vient pour nous aider, pour être transformés. Dans cette série de messages, je veux vous encourager de lire le livre de Josué. Dans ma méditation, de mon étude, je vais dégager certains principes que je vois pour nous. Mais je suis certain que je vais manquer des choses. Et donc, je vous encourage aussi, de votre côté, de lire le livre de Josué pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre en possession cette terre promise. C'est un exemple pour nous pour prendre en possession la vie promise en Jésus-Christ. Donc, la semaine prochaine, je vais prêcher sur Josué chapitre 1. Donc, je vous encourage cette semaine, lire chapitre 1, voir ce que vous voyez. Et c'est un chapitre qui est rempli de leçons, je vous assure. En fait, le premier 9 versets développent presque tous les thèmes qu'on peut voir tout au long du livre de Josué. Donc, lire. Bon, pour terminer, j'ai encore un autre voilier. C'est un grand voilier cette fois. Et en fait, chaque voile que nous voyons, c'est comme une chose, une leçon que nous allons apprendre de Josué et le peuple d'Israël. La semaine prochaine, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est une voile qu'on va voir pour attraper le vent de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, pour obtenir, pour prendre en possession cette vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je prie que tu sois avec nous pour apprendre de toi dans le livre de Josué. Comme une communauté, nous avons besoin l'un et l'autre, Seigneur, tous ensemble. Enseigne-nous, Seigneur. Je prie en ton nom. Amen.